franceinter.fr.
Les hommes modernes qui vivaient en Afrique du Nord il y a 15 000 ans révèlent enfin leur secret, puisque pour la première fois, des analyses ADN ont été menées sur 9 fossiles découverts dans la grotte des Pigeons à Tafor Alto, nord-est de la côte marocaine. Une prouesse technique publiée dans Science qui a permis aux équipes marocaines et allemandes, Axel, d'extraire ainsi le plus vieil ADN africain à ce jour. Et on en parle avec notre invité.
Oui Mathieu, nous sommes avec Jean-Jacques Hublin. Bonjour.
Bonjour, moi je suis l'équipe allemande.
Oui, vous êtes l'autre partie. Vous êtes paléo-anthropologue, j'allais le dire, à l'Institut Max Planck à Leipzig. Et vous avez été sollicité par Abdeljalil Bouzougar, qui dirige les fouilles pour l'aider à extraire cet ADN. D'ailleurs, pourquoi c'était si difficile à obtenir cet ADN?
Alors l'ADN, l'ADN de fossile, c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné les études sur l'évolution humaine depuis une vingtaine d'années maintenant. Mais il se trouve que l'ADN se dégrade au cours du temps, malheureusement, et il se dégrade essentiellement en fonction de la température. Donc on a de l'ADN très ancien dans les zones froides, et dès qu'on descend dans le sud, eh bien, il y en a de moins en moins, et en gros, dès qu'on passe la Méditerranée, il n'y en a plus. Et le paradoxe, c'est que finalement, eh bien, on sait beaucoup de choses sur des populations qui sont certes très intéressantes, mais périphériques, comme les hommes de Néandertal, par exemple, mais le cœur du problème, c'est-à-dire l'origine des hommes modernes, qui est une histoire africaine, eh bien là, on ne sait rien. On ne connaît que l'ADN des Africains actuels.
Et justement, le plus vieil ADN humain, toutes régions confondues, il est daté à combien ?
Alors ça dépend ce qu'on appelle l'ADN humain. Il y a de l'ADN de Néandertal très ancien qui a 400 000, un peu plus même, en Espagne.
400 000 ans, ADN de 400 000 ans, qui a été conservé, mais dans quelles conditions alors ?
Alors dans un karst, c'est-à-dire une grotte, une cavité profonde, donc à une température qui était relativement basse, et il est quand même très dégradé. Alors pour ce qui est des hommes modernes, des hommes comme nous, alors là, c'est seulement 45 000. Et c'est un fémur qui a été découvert en Sibérie occidentale, par 52 degrés de latitude nord, un endroit qui s'appelle Oust-Ishim.
Et où il fait frais, où il y a de la glace pour conserver.
Il fait frais.
Ici, c'est beaucoup plus jeune, c'est 15 000 ans sur ce site funéraire de la grotte aux Pigeons. C'est un endroit qu'on connaît depuis longtemps d'ailleurs.
Oui, alors c'est une grotte qui a été fouillée par un archéologue français qui s'appelait l'abbé Roche. C'est un abbé, les abbés sont beaucoup intéressés à l'archéologie préhistorique. Et ce site a livré des sépultures, un cimetière, une nécropole, d'une civilisation, enfin d'une culture qu'on appelle libéro-maurusien. Une grande partie de ce matériel est à Paris, en fait, et à l'Institut de paléontologie humaine. Et mon collègue Abdeljalil Bouzougar, qui travaille à l'INSAP à Rabat, donc a repris le travail dans ce site avec toute une équipe internationale, des Anglais, des Allemands, des immigrés comme moi en Allemagne. Et donc récemment, on a décidé, grâce à un contact avec une équipe du Max Planck qui est à Iéna, de tenter l'extraction d'ADN. Il faut dire que cette grotte de Tafor Alto, elle est quand même en altitude. Alors c'est pas le Mont Blanc, c'est à près de 1000 mètres d'altitude, mais c'est quand même un environnement plus frais que le Maroc environnant, on va dire.
Alors vous avez réussi, et c'est donc la première fois qu'on parvient à regarder dans le génome d'un homme africain ancien. Qu'est-ce qu'on y apprend ?
Alors, en réalité, on a déjà trouvé de l'ADN ancien en Afrique, mais pas très ancien, c'est-à-dire 3000 ans, 4000 ans, des choses comme ça. Alors là, on fait quand même un bond jusqu'à 15 000 ans. Ces Ibéro-Maurusiens, ils sont très intéressants parce que pendant très longtemps, on a cru que c'était des populations en fait européennes qui avaient, au cours de la préhistoire, au cours du dernier maximum glaciaire, en fait traversé la Méditerranée et recolonisé une partie de l'Afrique, l'Afrique du Nord. Et donc c'est notamment cette hypothèse-là qu'on voulait tester. Et donc le résultat de ces recherches, en fait, nous oblige à rejeter complètement cette idée-là. C'est-à-dire que ces populations qui vivaient il y a 15 000 ans au Maroc, en fait, elles ont surtout des connexions avec le Proche-Orient et puis avec l'Afrique subsaharienne. Alors cette Afrique subsaharienne, ce sont des populations qui vivent aujourd'hui au sud du Sahara. Alors dans la préhistoire, ils ont pu vivre un peu plus au nord, là où se trouve le Sahara.
Mais comment on le sait ça dans l'ADN, Jean-Jacques Hublin? Parce qu'il n'y a pas la petite vidéo des déplacements des humains de l'époque quand même.
Oui, alors l'ADN, c'est l'ADN moderne, puisque là c'est de la comparaison avec des populations actuelles. Eh bien, une des limitations de l'étude du génome des populations actuelles, c'est qu'évidemment, cette étude ne nous dit pas où vivaient les ancêtres de ces gens-là il y a 50 000 ans, il y a 100 000 ans. Et il faut bien comprendre que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'il y a 50 000 ans ou 100 000 ans. Il y a eu des changements de climat, de paysage absolument extraordinaires, et en particulier des épisodes qu'on appelle des épisodes de Sahara vert, qui, comme leur nom l'indique, ont vu le Sahara couvert de végétation, de fleuves, de lacs, avec des gens qui vivaient là.
Alors, vous avez trouvé l'année dernière, Jean-Jacques Hublin, celui qu'on considère comme l'ancêtre le plus ancien de la lignée des hommes modernes, à Djebel Irhoud, au Maroc aussi. Est-ce que ces Ibéro-Maurusiens sont aussi connectés ou pourraient être connectés avec cet homme-là?
Djebel Irhoud, c'est 300 000 ans.
Hein. 300 000, oui. Alors, pas vraiment directement. Hein. C'est-à-dire qu'on a, à partir des hommes de Djebel Irhoud, on a une succession de sites, parfois avec des restes humains, et notamment d'une industrie qu'on appelle l'Atérien. Donc sont des hommes modernes anciens, on voit bien une espèce de continuité. Et le problème des Ibéro-Maurusiens, c'est que justement, on observe un espèce de hiatus de peuplement entre les derniers Atériens et les premiers Ibéro-Maurusiens, d'où cette idée que sont des gens qui viennent d'ailleurs. Et encore une fois, cet ailleurs, on a longtemps cru que c'était l'Europe.
Est-ce que dans la grotte, on a trouvé des indices culturels, des outils pour essayer d'imaginer comment vivaient ces hommes-là?
Ah oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des hommes qui sont, dans le fond, à la frontière de ce mode de vie de chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire qu'ils cueillent des végétaux dans leur environnement, mais ils les cueillent de façon, j'allais dire, industrielle. C'est-à-dire qu'ils commencent à s'orienter vers une forme de sédentarité et une forme d'exploitation du monde végétal qui nous rapproche de l'agriculture. Et les populations du Proche-Orient desquelles on les rapproche, justement, ces natoufiens, ben eux aussi sont des gens qui sont à la frange de la sédentarité.
Une chose qu'on n'a pas dite, c'était que c'était un cimetière dans une grotte,
oui,
dans lequel on a trouvé énormément de squelettes, seulement les 9 qui sont cités dans la publication.
Beaucoup, oui, ils enterrent beaucoup, et puis avec des pratiques funéraires assez étonnantes. Hein, ils aiment bien manipuler les cadavres, les ossements, ils décharnent, ils récupèrent des os, ils les placent ailleurs dans d'autres sépultures. Quelque chose qu'on voit aussi chez les fameux natoufiens.
Voilà, ADN ancien, donc le plus ancien découvert jusqu'à ce jour en Afrique, 15 000 ans.
C'est vraiment une première, oui.
Voilà. Est-ce que les premiers Homo sapiens, il y a 300 000 ans, avaient le sens de l'humour, à votre avis, Jean-Jacques Hublin? Ça me prend une petite transition pour la séquence qui va suivre.
Ah oui, je pense. On voit des chimpanzés sourire, et donc ces chimpanzés-là sont beaucoup plus anciens. Donc moi, je pense que les hommes ont un certain sens de l'humour depuis assez longtemps. Alors malheureusement, on n'a pas leur
le fossile,
leur langage.
Ni le fossile de la crise de rire, par exemple. Alors, Bruno Imbeck.
C'est vrai que les singes sourit, mais il faut se méfier du sourire des chimpanzés. Hein. C'est généralement ce qu'on appelle un rictus menaçant. Il y a chez le sage qui a un sourire agressif, en fait. Hein,
ouais. Donc, il faut pas se méprendre, ça peut être gênant.
Oui, ouais. Il y a un autre sourire chez les petits singes, les singes juvéniles, ouais, qu'on retrouve uniquement dans des contextes sécurisants, créateurs de liens bienveillants. Et c'est justement là qu'on va voir que la source du rire chez l'homme qui a tout mélangé, au cours sans doute de son nominisation. Hein, donc je pense qu'ils ont ri, certainement, inévitablement, à la fois pour se menacer, mais aussi jeunes, pour créer de la convivence. Et c'est ce rire qui se sont finis par se mélanger au point de créer un salmigondi absolument impossible actuellement à démêler.
Mais le sourire menaçant, ça existe toujours.
On a un exemple très clair de rictus menaçant. Si vous regardez Trump rire, par exemple, vous allez voir, sa mâchoire est acérée, ses yeux sont ciblés, et on n'a pas envie de rire avec lui d'ailleurs. Hein. C'est un rire menaçant, qui est un rire agressif, qui vient du rictus menaçant, sans doute du grand singe.
L'analogie avec le chimpanzé n'est pas mauvaise, effectivement. Merci beaucoup Bruno Imbeck, et merci Jean-Jacques Hublin, surtout, d'être venu dans le studio de La Tête au Carré. Et puis on se retrouve dans un instant, justement, pour parler rire et humour. Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, Oumuamua, le premier astéroïde interstellaire découvert en octobre, vient probablement d'un système à deux étoiles. Cet objet rougeâtre en forme de cigare de 400 mètres de long fait l'objet actuellement de nombreuses études. Et selon les chercheurs de la Royal Astronomical Society, l'hypothèse de sa provenance d'un système à deux étoiles a été permise grâce aux simulations informatiques qui montrent qu'environ 36% des étoiles binaires peuvent éjecter des astéroïdes aussi loin dans la galaxie. Aux États-Unis, l'étude d'une équipe de l'Institut National de Santé relance le débat sur le caractère perturbateur endocrinien des huiles essentielles. Selon les chercheurs, certains composants chimiques de ces huiles auraient des propriétés œstrogéniques et anti-androgènes et seraient donc responsables de maladies du développement du tissu mammaire chez les jeunes garçons. En 2008, pourtant, le comité scientifique de la Commission européenne considérait peu probable ce lien entre les huiles essentielles et la maladie. Et puis après une pluie d'hommages la semaine dernière, rarement égalée pour un scientifique, nous savons maintenant où sera enterré le physicien Stephen Hawking. C'est l'abbaye de Westminster à Londres qui a été choisie par le doyen et révérend John Hall. Hawking reposera donc aux côtés des plus grands noms de la science comme Isaac Newton ou Charles Darwin. Les obsèques du célèbre professeur se dérouleront quant à eux le 31 mars prochain à Cambridge, où l'astrophysicien a vécu et enseigné pendant plus de 50 ans.